Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Whitelist, le podcast NFT business et investissement adressé aux holders comme aux papers. Je suis Néo, dans ce podcast je serai votre hôte et j'aurai le plaisir de vous donner rendez-vous tous les dimanches pour la sortie de votre nouvel épisode. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui se veut être le pendant de l'un de ceux que nous avions abordé dans un précédent podcast et qui concernait les indicateurs clés à observer et valider pour choisir un bon projet NFT à Mint, puisqu'aujourd'hui on va voir la checklist pour flip un NFT sur le marché secondaire et donc les 14 points cette fois à valider pour être rentable. Alors, on va diviser ces 14 points en deux parties. La première, ça va être les soft et la seconde, ça va être les hard. Dans le jargon informatique et tech notamment, on utilise justement le terme soft, soft data, hard, hard data, pour définir deux types d'informations. Soft, c'est généralement tout ce qui va être assez trivial ou pas forcément factuel ou important. Hard data, ça va vraiment être de la data factuelle, de la data technique, de la data dure et importante, pour le coup, plus importante en tout cas, que la soft. Donc on commence tout de suite avec la partie soft data. Alors la première chose, le premier point donc à valider pour la checklist d'un NFT à flip sur le marché secondaire, ça va être les présences en ligne du projet concerné. Alors tout simplement, est-ce que le projet a un Twitter? Est-ce qu'il a un Discord? Est-ce qu'il a un site internet? En fonction des réponses à ces questions, bah, vous allez avoir un projet avec plus ou moins de crédibilité. Aujourd'hui, un projet avec un Twitter seul sera forcément plus risqué qu'un projet avec un Twitter, un Discord vivant et un site internet. Ensuite, toujours dans la partie présence en ligne, le deuxième point, ça va être l'engagement. L'engagement sur les réseaux sociaux, de nouveau, que ce soit Twitter, Discord, mais également les followers et la qualité des followers qui vont être engagés, notamment les whales ou les personnes qui peuvent être influentes dans les NFT et dont je vous partagerai pourquoi pas bientôt les noms dans un podcast. On peut avoir, je sais pas, des personnes connues comme Pranksy, comme Otto Swen, bon, Gary V dans les monuments que tout le monde connaît. Si vous voyez l'un de ces noms suivre un projet que vous envisagez de flip, c'est bon signe. Troisième point à observer dans la soft data, ça va être l'art, comme le point à observer qui était déjà présent pour les projets à Mint sur le marché primaire. L'art ici va aussi avoir son importance par rapport à deux choses. La première, bah, est-ce que c'est beau? Encore une fois, hein, c'est bête, mais c'est toujours un plus. Et la seconde, est-ce que l'art, le design suit une tendance? En ce moment, on a pas mal de tendances artistiques, que ce soit dans des free mint ou des projets à flip sur le marché secondaire, autour de l'IA, autour des gobelins par exemple ou autre. Pareil, si c'est une tendance qui a un potentiel et qui surfe sur peut-être un gros projet, ça peut être intéressant. Autrement, si c'est quelque chose de déjà vu, qui a pas mal été épuisé, notamment comme gobelin, bah, ça peut peut-être être un red flag à considérer. Ensuite, dans les soft data, avant-dernier point, ça va être la communication et le storytelling. Est-ce que bah voilà, la manière dont ils ont de communiquer et d'échanger avec leur communauté est bonne? Est-ce qu'elle est bien faite? Est-ce que leurs tweets sont bien écrits? Qu'est-ce qu'ils racontent dedans? Comment comptent-ils l'histoire de leur projet? Est-ce que leur projet a une histoire? Voilà, toutes ces questions finalement liées à la manière dont ils vont avoir bah, de parler le langage NFT avec leur communauté. Enfin, dernier point en soft data, ça va être le marketing. Alors le marketing, ça va engager la publicité, d'une part, que ce soit sur des outils et des régies comme Twitter, Facebook, Instagram ou autre. Et ça va également être tout ce qui va être relatif aux collaborations et partenariats. Est-ce que le projet va collaborer et nouer des partenariats avec d'autres projets NFT? Avec des influenceurs peut-être? Si oui, qui sont ces influenceurs? Est-ce qu'ils sont légitimes dans le monde des NFT et ont peut-être une certaine expérience ou alors pas du tout, sont peut-être des influenceurs de télé-réalité ou autre? Voilà, c'est quelque chose d'important à observer et à valider pour savoir si c'est bien ficelé. Donc voilà pour la partie soft data. On en vient donc à la deuxième partie, la plus importante et la plus grosse, qui va bah, comporter le plus de points. La hard data donc commence par le supply. Le supply, c'est quoi? C'est la quantité de NFT disponibles dans la collection du projet que vous visez. Est-ce que c'est une collection de 5000, de 7000, de 10000, de 20000? Bref, il y a des collections aussi plus petites. Ici, le supply va avoir une importance toute particulière en ce sens que plus il va être gros et forcément moins bon ça va être pour le projet, puisqu'à un moment donné, bah voilà, la loi de l'offre et de la demande l'emporte. Si on vend un bien qui est illimité en quantité, ça le rend moins rare. Si on le rend plus limité, ça le rend plus rare. Et donc, bah, ça amène à ce que le prix puisse plus facilement monter. En plus du supply, ce qui va être aussi important à observer, c'est la deuxième art data, ça va être le ratio de holders dans le supply, qui ici, idéalement, va se situer au-dessus des 50%, même si dans des projets un petit peu degen qu'on peut retrouver dans des raffles, dans des free mints, ça va être compliqué à avoir. En gros, qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie que un projet qui va être détenu par une minorité de personnes, si par exemple, je sais pas, il y a 10 000 NFT détenus par 100 personnes, donc ça veut dire bah, 100 NFT par personne, forcément ça va pas être très sain pour le projet parce qu'une poignée de personnes auront son avenir entre leurs mains, tandis que si le projet bah, de 10 000, pour reprendre cet exemple, est détenu par 5, 6, 7 000 personnes, bah, ça veut dire que le projet a du coup plus de chances de ne pas être manipulé, entre guillemets. Ici, voilà, l'indicateur minimum, ça va être 30-40%. Donc 30-40% de wallets qui détiennent au moins un NFT. 50%, on arrive vraiment sur un idéal. Au-delà, 60-70% et plus, c'est très rare et c'est évidemment très positif. Prochain indicateur, ça va être le pourcentage de NFT listés à la vente. Alors ici, très simplement, il faut viser vraiment un maximum de 9-10% de NFT, idéalement en dessous de 7-8. Si vous avez un projet voilà, avec 7-8% ou moins, on arrive vraiment sur un ratio de listing sain, signifiant que la majorité des détenteurs n'ont pas envie de vendre leur NFT, ce qui gonfle bah, dans la plupart des cas le prix et la demande. Également, prochain indicateur clé, ça va être l'évolution du floor price. Alors observez le floor price évidemment et son évolution. Son évolution, bah, ça va être au cours des dernières minutes, heures, éventuellement jours. Comment le floor price a évolué? Est-ce qu'il a atteint un top? Ou au contraire, est-ce qu'il a atteint un dip et qu'il est tombé très bas? Voilà, c'est important de l'observer, de savoir l'analyser et le comprendre pour décider quand se positionner, que ce soit à l'achat ou à la vente. Évidemment, une règle d'or, comme j'en ai parlé dans un précédent podcast, on n'achète jamais en bas et on essaie toujours de vendre au plus haut. Prochain indicateur, ça va être le nombre de ventes par minute, ce qui va véritablement vous permettre en un coup d'œil de voir s'il y a de l'activité sur un projet, qu'il y a de la demande, qu'il y a bah voilà, des gens qui veulent acheter, des gens qui veulent vendre, mais surtout des gens qui veulent acheter, bah ça va être le nombre de ventes par minute. Observez combien il y a de ventes par minute et depuis combien de temps. Souvent, un projet qui vient de sortir, qui est en train d'être mint, forcément, il peut y avoir beaucoup de ventes par minute. Maintenant, est-ce que les ventes par minute durent depuis un moment ou pas? Et combien y en a-t-il par minute? Alors ici, il n'y a pas vraiment de règles définies, dans le sens où bah, pour un projet qui, par exemple, va avoir un floor de 0,1 Ether, ça ne va pas être les mêmes règles que pour un projet qui va avoir un floor de 1 Ether. Tout simplement parce qu'un projet à 1 Ether, s'il n'y a pas 1000 ventes par minute, ce n'est pas forcément grave. A l'inverse, un projet à 0,1, bah, s'il n'y en a qu'une toutes les heures, ça peut être inquiétant. Donc dites-vous que plus le prix est faible, plus le nombre de ventes à la minute doit être élevé en théorie. Après, ça sera à vous de déterminer en fonction du moment et du type de projet s'il y a une réelle activité ou non. C'est souvent une question de bon sens plus que de chiffres finalement. Prochain indicateur, ça va être l'évolution du volume des ventes sur les quelques minutes, heures et jours qui ont précédé eh bien, l'analyse que vous faites du projet. Non seulement le nombre de ventes par minute va être, comme je l'ai dit, important à connaître et à observer, mais son évolution également. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, si le projet se vend très fort, mais que depuis 30 secondes, peut-être que ce n'est pas forcément le meilleur moment d'acheter ou de vendre selon le positionnement que vous avez pris. l'inverse, si vous voyez qu'il y a un nombre de ventes, un volume élevé et que ça fait de longues heures que c'est le cas, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc encore une fois, observez cette métrique et savoir la comprendre pour l'incorporer dans l'ensemble des autres que vous analysez afin de vous positionner ou non. Également, hard data importante à observer, ça va être le supply versus la demande ou les ventes versus les listings. En gros, c'est très simple, mais ça va vous nécessiter probablement des outils, des sites internet ou des plateformes pour pouvoir le vérifier. Regardez combien de personnes vendent versus combien de personnes achètent. Il peut très bien y avoir un grand nombre de ventes, mais un nombre de listings encore plus grand. Et selon la différence et l'écart qu'il va y avoir entre les deux, ça peut être plus ou moins bon ou mauvais signe. Donc ça, c'est quelque chose d'important à observer, en plus de l'évolution du volume des ventes, du nombre de ventes et de toutes les autres métriques finalement à considérer. Avant-dernier point à valider dans les hard data, ça va être les niveaux de support. Pareil, ici, vous allez avoir besoin d'outils, de sites, de plateformes, et je pourrais encore une fois faire un podcast à ce sujet, pour voir où se trouvent les walls, les murs, les résistances, les supports, par niveau, si vous voulez, de floor price. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, une idée, pour illustrer un petit peu mon propos. Vous analysez un projet d'un supply voilà, de 10 000 items à un floor de 0,1. Il y a très peu de NFT listés. Et vous vous rendez compte que pour atteindre 0,2, finalement, il va ne falloir que seuls, je ne sais pas, 5 ou 10 NFT se vendent. Mais qu'à partir de 0,2 pour aller jusqu'à 0,3, il va peut-être falloir qu'il y ait 100 ou 200 NFT qui soient vendus. Là, c'est un mur, c'est un niveau de support, un niveau de résistance autour duquel les vendeurs s'accordent pour se dire « voilà, moi j'ai très envie de vendre à ce prix-là, pas forcément plus haut ou plus bas ». Donc, c'est quelque chose d'important à observer, analyser et à comprendre justement pour prendre un positionnement adapté par rapport à lui. Enfin, on arrive au dernier point à valider dans les hard data, ça va être celui des blue chip holders. Alors ici, également, vous allez avoir besoin d'outils d'analyse pour voir si, sur les projets que vous analysez, il y a des détenteurs de blue chip qui sont positionnés dessus. Par exemple, s'il y a des holders de Bored Ape, de Mutant Ape, de CryptoPunk, de Clonix ou d'autres grosses collections sur lesquelles il y a souvent des investisseurs chevronnés, s'il y a des wallets qui détiennent un ou plusieurs de ces NFT qui se sont positionnés sur le projet que vous êtes en train d'analyser et que vous envisagez de flip sur le marché secondaire, c'est un bon signe. Surtout s'il y en a beaucoup. S'il y en a un ou deux, c'est pas forcément représentatif. Maintenant, si vous en voyez, encore une fois, c'est une question de bon sens, il n'y a pas de chiffre précis, mais une ou plusieurs dizaines, ça peut être un indicateur très positif dans l'idée de vous dire que ce projet-là est un bon investissement. Ce que vous pouvez également observer aussi, pour aller encore plus loin dans l'analyse, c'est à combien ont-ils acheté les NFT, combien ont-ils acheté de NFT et à combien les ont-ils listés s'ils les ont listés. En fonction de ça, ça peut vous donner une indication, même si elle n'est pas forcément toujours adaptée à vous, puisque la plupart des whales et des investisseurs détenant des blue chips vont se positionner sur des projets à flip sur le marché secondaire en sweepant les floors, c'est-à-dire en achetant des dizaines voire des centaines de NFT d'une seule et même collection, justement pour pouvoir les revendre après les avoir achetés en masse, quitte à faire de toutes petites marges de 5, 10, 15 ou 20 dollars par NFT, multiplié par 10, 50, 100, 200 NFT, forcément, ça permet d'encaisser des profits assez facilement, assez rapidement et avec très peu de risques. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde ne peut évidemment pas faire, mais qui peut toujours être observé et analysé pour prendre une décision en fonction. On en a donc terminé avec l'ensemble des 14 points à observer et valider pour être rentable dans votre checklist de flipping NFT sur le marché secondaire. Je termine en disant que l'ensemble des points qui ont été partagés durant ce podcast sont subjectifs et non exhaustifs, signifiant qu'il y en a probablement d'autres que j'ai omis et surtout qu'ils ne se basent que sur ma propre et modeste expérience dans les NFT. Comme j'ai pu le dire, il y a pas mal d'outils à utiliser et qui vous permettront grandement d'améliorer votre itération dans les NFT. Je ferai probablement un podcast dédié à ce sujet. Autrement, vous pouvez toujours rejoindre le Discord 100% gratuit de Trinity, l'alpha que j'ai fondé, et à l'intérieur de laquelle on partage beaucoup de valeurs, justement autour des outils, des astuces, des techniques et des stratégies les meilleures et les plus actuelles à utiliser dans les NFT pour être profitable. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à laisser une note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez. Ça m'aiderait, voilà, comme je le dis à chaque fois, énormément à mieux être référencé et à faire connaître le podcast. Partagez-le également autour de vous s'il vous a plu. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire. Et d'ici là, que le pump soit avec vous.